les sols se dégradent rapidement. Le producteur, il doit labourer, il doit avoir une force de travail qui n'est pas en accord avec la lenteur des processus de régénération. Mais ça, c'est notre société qui va à cette vitesse, hein. Et au niveau mondial, c'est un peu la même chose. Il faut vite aller produire, il faut produire à quelque part, puis ensuite, ça ne fait rien. On pense qu'on peut aller ailleurs. Mais il arrivera un moment donné où il n'y a plus le ailleurs. Les terres émergées, elles ne sont pas extensibles, hein.
Nos sols sont-ils en péril ?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Comment se portent nos sols en Suisse ? Quatrième jour de reportage au chevet de nos terres, de leurs différentes strates, de leur quantité de matière organique qui semble fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, nous serons dans le grenier de la Suisse, le Seeland, dans la région des Trois Lacs, vaste zone agricole née de la correction des eaux du Jura qui a permis d'assécher les marécages grâce à des drains, ces conduits percés favorisant la captation et l'écoulement de l'eau des sols trop humides. Le sol de tourbe du Seeland est une mine d'or et une agriculture intensive s'y est déployée largement. Mais aujourd'hui, le système arrive à ses limites. La matière organique nécessaire aux plantations s'amenuise. Les sols s'affaissent d'un bon centimètre par année depuis un siècle. Certains s'en alarment, comme Matthias Schwab, agriculteur à Gals, tout près du canal de la Thiel. Il nous emmène sur un de ses champs du côté d'Ins. Voici « Au secours, mon humus disparaît ». C'est un reportage de Catherine Erard. Il est réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Il faut s'imaginer, à l'époque, la route, elle avait la même hauteur que le champ. Puis là, je pense, on a légèrement perdu un mètre de hauteur. Puis ça nous cause vraiment des problèmes parce qu'on a ces bosses que, quand il y a des orages, par exemple, en été, c'est tout de suite plein de l'eau. Puis ça nous fait de crever les pommes de terre, des carottes, par exemple.
On est ici en face du Chasseral, on n'est pas très loin du Landron, on est à quelques mètres du canal de la Thiel. Avant la deuxième correction des eaux du Jura qui a eu lieu dans les années 70, c'était comment ici? Votre père, il vous racontait quoi?
Alors mon père, il est venu sur cette domaine après les corrections, mais dans cette époque, personne ne voulait louer la domaine parce que c'était trop délicat, c'était trop de risques parce qu'avant, ça faisait partie de l'État. Et c'était souvent qu'ils sont dû sortir les vaches au village, les chenilles au village, les cultures étaient tout à long. Donc c'était vraiment trop de risques, personne ne voulait faire ça. Puis mon père, il croyait toujours à ce développement. Il croyait toujours que c'est vraiment des meilleurs sols qu'on a au niveau de rendement, au niveau de la cultivation. C'est très léger, hein, pour les pommes de terre, on récolte, il faut s'imaginer. Avec une machine normale, rien spécial, on récolte plus qu'un hectare dans 10 heures. Donc c'est top.
C'est pas pour rien que on parle du grenier de la Suisse en disant que le Seeland, c'est là que tous nos légumes poussent le mieux.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est clair, on risque aussi de forcer un peu trop, mais il faut aussi voir un peu le développement des paysans suisses dans les dernières 50-60 années. Hein. Il y a pas longtemps en arrière, ils sont dans la formation, ils sont dit aux jeunes paysans, il faut produire à fond, il faut produire. On veut du blé, on veut des pommes de terre. Je pense que c'était très très intensif. Hein.
Ouais. On voit cette terre qui est quand même... plutôt noir, ça c'est de la tourbe qu'on voit ou non? Le fait qu'elle soit assez foncée?
Non, ça c'est pas la tourbe. On veut pas avoir la tourbe au-dessus parce qu'elle va se décomposer.
Sitôt que la tourbe elle arrive à la surface, elle se décompose, c'est ça? Alors là vous prenez un petit bout de terre.
Là j'ai un petit bout de tourbe, ça c'est vraiment la tourbe.
Ça c'est la tourbe.
La tourbe qui est à l'air. Elle est comme une éponge.
Arrivez un peu à la défaire. On voit comme des petits... comment on pourrait dire ça?
Des petites feuilles, quoi.
Des petites feuilles, voilà.
Quand c'est mouillé, ça tient. Puis maintenant, quand on tourne ça à l'extérieur, ça se décompose très très vite. Puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc la difficulté pour nous, c'est un peu qu'on devrait avoir 50-60 cm de hauteur de humus pour cultiver. On ne veut pas toucher la couche de tourbe en dessous.
Là, sous ce champ, il vous reste quelle hauteur de tourbe?
Alors là, je dirais que c'est un maximum 20 cm de couche de tourbe. Après, on est dans le sable. On est assez stable. Ouais, ce qui compte maintenant, c'est qu'on peut encore conserver ces 20 cm. Par exemple, l'année passée, j'avais des pommes de terre, j'ai labouré. Maintenant, j'ai ressemé de l'herbe. Puis ça va rester 3 ans sans toucher. Je mets chaque année plusieurs fois le lisier. 20 ans en arrière, on aurait eu des pommes de terre, on aurait récolté, on n'aurait rien semé. Parce que c'était quand même au mois d'octobre. Puis moi, j'ai fait un effort. Je me suis dit, je vais essayer de couvrir le sol quand même le plus possible.
Alors, on arrive bientôt au bout de votre champ. Là, derrière, il y a encore un autre champ qu'il nous faudra passer. Vous allez me dire un peu ce que c'est ce champ là-bas. Alors, on voit de la paille hein, dessus.
Ça, c'est quoi?
Ouais, ça, c'est du fumier.
C'est du fumier que vous avez mis.
Qu'on a emmené pour, aussi pour la structure, pour, comme engrais, quoi. Ouais. Là, il y aura du maïs l'année prochaine.
Là, on passe aussi, on voit les roues de tracteurs. Mmh. Est-ce que là, vous avez aussi des problèmes de tassement de sol, des fois?
Les problèmes de tassement, ça, c'est souvent un problème quand c'est humide. Quand on est obligé de travailler, de rouler. Le problème avec le tassement, c'est dans un sol normal, on a toujours des couches. Et puis, entre deux, c'est vide. Mmh. Puis, il faut ces espèces pour... Les animaux, pour les micros, pour tout ça. Puis si on l'entasse, on perd tout ça. Et puis, entasser, c'est vite fait. Mais refaire, ou bien, comment je veux dire, améliorer, ça prend beaucoup de temps.
Voilà. Bonjour, monsieur Gugos.
J'ai les mains un peu sales.
Bah, pas de souci. Vous êtes en plein terrain, là, alors.
À fond. Eh oui. Il fait beau, ça tombe bien.
Ça tombe bien. Stéphane Burgos, votre travail de pédologue ici, dans les étangs, il consiste à faire quoi?
Alors, on voit des grandes plaines. Et puis, on a peu de connaissances sur les types de sols qu'il y a. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a où.
Il y a de la tourbe.
Il y en a, mais pas partout. Et puis le but, c'est de savoir combien et où.
Et qu'est-ce qu'il y a dessous aussi?
Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Donc à l'origine, c'était des marais. Hein. Il y avait de l'eau qui protégeait la tourbe.
Parce que la tourbe, on le répète, c'est vraiment le sol marécageux qui est sous l'eau, qu'on va dans un étang, c'est ça, quoi.
Tout à fait. Et puis, quand les plantes meurent, elles s'accumulent. Et l'eau empêche la dégradation de la tourbe. Alors au moment où je draine... Alors il y a déjà une compaction qui se passe parce que l'eau n'est plus là. Puis ensuite, les micro-organismes attaquent la tourbe et puis ça la bouffe pendant chaque année un petit peu.
Est-ce que l'agriculture, elle a quand même un impact sur cette minéralisation de la tourbe? Ou est-ce qu'elle pourrait la protéger aussi, empêcher ce phénomène?
Ben, à partir du moment où on décide de cultiver le sol... On doit drainer et puis le drainage provoque cet affaissement. Donc si je veux cultiver ces sols, eh ben, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Hein. Ils voulaient les cultiver pour produire après la guerre. Et pour éviter les inondations, à partir de ce moment-là, ça descend. Quel que soit plus ou moins le type d'agriculture. Hein, ça c'est surtout le drainage qui fait que ça s'affaisse. Quoi.
Et alors la solution c'est quoi? Il faut arrêter de cultiver.
Oh.
Bonjour, il y a des cavaliers qui passent à côté de nous.
Non, on ne peut pas arrêter de cultiver. La solution, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a où. Et puis dans les endroits où il y a un risque modéré d'affaissement encore, c'est de trouver des systèmes qui permettent soit de jouer avec les nappes, soit de travailler le moins possible le sol. Et puis dans d'autres endroits, ben, il faudra, je sais pas, c'est peut-être extensifier un peu. Mais pour l'instant, on doit déjà savoir où est-ce qu'est-ce qu'on a où.
Juste éteindre ce truc, là, parce que sinon, j'ai plus de pile.
Hey, il est tout terrain, votre téléphone là. C'est un téléphone?
Non, c'est un GPS.
Je me disais, bah, qu'est-ce que c'est, excusez-moi. Voilà.
C'est un GPS qui me permet de noter précisément où je creuse.
Montrez-moi.
Voilà, ça c'est une tarière. Donc c'est une sorte de tige métallique avec un bout ouvert au fond. Mm-hmm. Une, deux poignées, et puis on l'enfonce dans le sol, on tourne, et puis on remonte la terre, je peux vous montrer.
Alors on y va.
Alors ça va être un peu sale.
Vous alors, tournez.
C'est un peu dur parce que l'eau fait comme une force de succion. On entend bien.
Ah oui, et là.
Voilà. Donc là, en principe, il n'y a plus de tourbe au fond, là. Donc ce sol a à peu près encore 60 cm de tourbe jusqu'au substrat minéral.
Et le substrat minéral, il est autant humide parce que justement, à cette profondeur-là, on est à la hauteur
du drainage.
Ah ouais. Donc ça veut dire clairement, si on perd ça, on arrive au niveau donc, de ce substrat minéral qui est complètement mouillé et là, on ne peut plus rien faire, quoi.
Alors les drains, actuellement, ils doivent être à peu près ici, vu que le dessus est sec.
Ouais. Donc si... un peu sous la tourbe, hein, voilà. Ce que vous montrez.
Si on perd encore 30-50 cm, après, il faudra redrainer. Si on ne draine pas, ça, on ne peut plus rien faire. On sera sur la nappe phréatique.
Alors là, on est de nouveau dans du sol où on s'enfonce bien.
Vous voyez ici. Alors maintenant, je vais changer de tarière. On va prendre... J'appuie. Comme ça, je tourne la même chose. Puis ensuite,
pour monter,
je remonte.
Et là, on a une belle carotte.
Voilà, je vais la couper. Voilà. Alors, vous voyez ici la tourbe brune. Hein. Et si je la démonte un petit peu, on voit les feuilles des roseaux. Hein. Ça, c'est des feuilles de roseaux et des petites racines. Ils sont presque pas décomposés.
Ils sont vieux, ceux-là. Hein.
Ouais, alors ça peut-être, ouais, c'est plusieurs milliers d'années. Hein. Ils ont été formés, on n'était pas là. Alors je vais continuer.
Donc on descend encore plus bas cette fois.
On descend plus bas. Alors on a vu avant, il y en a en tout cas un mètre. Hein. Puis maintenant, on va essayer de la ressortir.
Ah, c'est physique hein, comme travail.
Ah
hein.
Oui, c'est pas facile.
Ah ouais, on a une belle carotte.
Donc là, on était à un mètre. Et on voit qu'à partir d'un mètre dix, j'ai un matériel qui est très différent de celui qu'on avait avant. Là, c'est presque que des limons. On voit, il y a encore des coquillages. Hein. Donc on était dans un lac ici, il y a 10 000 ans. Donc là, on voit que par rapport à l'autre sondage, j'ai un mètre de tourbe, 1,10 m.
Et si ce 1,10 m disparaissait de tourbe, on serait sur le limon.
Voilà.
Là, pour cultiver, si on arrive à remettre un peu de l'humus, c'est possible ou pas?
Alors c'est possible, mais ce sera des sols très sensibles. Les sols limoneux, ils sont très vite tassés, ils supportent pas beaucoup la compression mécanique. Donc là, c'est pas optimal.
Stéphane Burgos, c'est difficile de se projeter dans l'avenir parce qu'on voit que les agriculteurs font beaucoup d'efforts ici pour améliorer leur sol, le travailler de manière moins agressive. Il n'empêche, si on se projette dans une génération, si globalement, on continue ce qu'on fait aujourd'hui. On en est où dans le Zélande?
Dans une génération, alors c'est très difficile à dire combien de pourcentage sera trop descendu, mais ouais, il y aura peut-être 10-20% qui seront trop humides ou des choses comme ça.
Donc là, je note aussi le taux de décomposition de la tourbe. Hein. C'est une échelle qui nous dit est-ce que c'est encore très brun. On voit qu'il y a des fibres là. Donc, on va noter ça. Voilà, alors, ranger tout ça.
Le petit tabouret pliable. Voilà. Ah, vous êtes équipé là. Hein.
Avec l'âge.
C'est bien.
Partout où on va, il y a des sols différents. Malheureusement, en Suisse, on n'a encore pas de carte sur l'entier du territoire.
On ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds.
Non. Donc, il y a des projets de construction, d'aménagement du territoire, mais on ne sait pas exactement où sont les meilleures terres. On a des idées, hein, ce n'est pas complètement au hasard. Mais il n'y a pas de carte précise. Alors, une cartographie comme on l'a fait ici, on compte à peu près un sondage par hectare. Donc si on imagine qu'il y a 500 000 hectares de terres d'assolement en Suisse, ça veut dire pour une cartographie, on parle de 500 000 à 1 million de sondages. Donc c'est un travail qui est conséquent.
Un travail de fourmi.
Ouais, de vers de terre, pour creuser. Mais ouais. Beaucoup de projets de construction, tout ça, ne tiennent pas compte des sols. Et il est temps que...
Ça devient une denrée rare.
Ouais, ça devient une denrée rare. Hein. La surface est limitée. Les forêts, les zones improductives, ben on n'y touche pas. Donc s'il y a des constructions, ça se fait au détriment des sols agricoles.
On est à la ferme Pré de Verre sur la commune de Rolles.
André Tellenbach, vous avez constaté, vous, sur votre exploitation des sols qui commençaient à poser problème?
Alors, au niveau des rendements, non. Par contre, en collectant toutes les analyses de sols sur des décennies en arrière, je vois une baisse du taux de matière organique.
Et cette baisse de la matière organique, de l'humus, comment vous l'expliquez?
Cette parcelle-là, je suis sûr que c'est depuis 1908, peut-être même avant déjà, qu'elle fait partie d'une exploitation où il n'y a plus d'animaux, donc plus de production de fumier, donc plus d'apport de matière organique. Si en plus, comme l'a fait mon prédécesseur, et moi aussi d'ailleurs, quand on a du blé, on vend la paille, on appauvrit vraiment le sol de sa matière organique.
André Tellenbach, vous avez une longue carrière derrière vous, vous êtes bientôt à 60 ans. Qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous êtes formé sur la question des sols? Quel était le discours?
Moi, j'ai été formé à la fin des années 70, au début des années 80. On était au début de cette progression incroyable, la mécanisation. On labourait, c'était normal de labourer sans se poser de questions. Au contraire, ça a aussi ses avantages, le labour. Et comme on avait des outils toujours plus puissants, on labourait toujours plus profond. On amène de l'oxygène dans le sol, on accélère la minéralisation de la matière organique, en plus des problèmes que j'ai déjà cités avant. Depuis à peu près 10 ans, j'ai commencé à lâcher la charrue, d'abord timidement, ensuite j'ai vu que ça fonctionnait. Je craignais les dépressions de rendement, ça n'a pas eu lieu. Et j'ai appris à maîtriser le travail en surface dans les 5-10 premiers centimètres du sol. Et là, je continue à toujours affiner la couche que je travaille.
Maintenant, quand vous analysez le taux de matière organique dans votre sol, ça va mieux?
Alors non, ça ne va pas mieux, mais j'espère arriver à stopper la descente du taux de matière organique. Le réélever, ça c'est un travail de longue année, et puis je pense qu'il faudra que mes successeurs travaillent là-dessus aussi.
Ça continue à pas mal souffler ici. Hein. Alors on est sur un autre champ, on voit là un peu en bas le lac Léman, vous n'êtes pas très loin. Hein. Et donc votre champ, il est un peu en pente.
Oui, il est suffisamment en pente pour que j'aie régulièrement eu des problèmes d'érosion quand je labourais. Normalement, on laboure les lignes dans le sens de la longueur et on finit le champ propre en ordre, bien à la Suisse, avec une raie de charrue en travers au bout. Et cette raie de charrue était mortelle du point de vue érosion parce que ça faisait vraiment le début d'un canal où après, pendant tout l'hiver, l'eau pouvait ramasser.
Quand il pleuvait,
la terre.
Tout oui. ça descendait oui. et vous voyez le sol qui descendait au fond.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire après? C'est très compliqué à récupérer une érosion.
Ah ben, de base, on ne peut que pleurer. Donc, il faut vraiment anticiper et puis éviter le phénomène. Ma première réaction, ça a été d'arrêter de labourer en travers. Je ne faisais plus que de griffer le terrain en bout de ligne. Ça a calmé le jeu, ça n'a pas suffi. Alors l'étape suivante, c'est au milieu de la pente, j'ai introduit cette bande de 3 mètres de large qui est enherbée. J'ai coupé le champ en deux. Et alors ça a été radical. Les deux mesures combinées, j'ai plus un gramme de terre qui s'en va maintenant. Sans compter que je ne laboure plus.
Si vous n'aviez rien changé dans vos manières de cultiver, ces mêmes sols, dans 20-30 ans, ils seraient comment ?
On craint, si on ne fait rien, si on continue les méthodes violentes, c'est que tout d'un coup, il y ait une cassure. Soit parce que la matière organique devient en trop petite quantité, et puis la structure du sol lâche, ou les équilibres chimiques dans le sol lâche. Et puis après, de reconstruire, de réactiver, de remettre la machine en route, ça demandera énormément d'efforts. Donc c'est mieux d'anticiper.
Alors, au niveau des sols, au niveau mondial, l'érosion et la compaction, c'est un gros problème. Aussi, dans certaines zones où on va irriguer, si l'eau n'est pas de bonne qualité, le sol peut devenir trop salé. Quand on a des surfaces immenses, quand je parle immense ici, c'est des jardins, hein, quand c'est plusieurs centaines d'hectares par parcelle, où il y a des grosses érosions qui se produisent, les sols se dégradent rapidement. Et aussi les zones sahéliennes et tout ça, les sols sont très fragiles. Dans l'Amazonie, tout ça, c'est extrêmement fragile aussi. Donc de se projeter en disant on va produire ailleurs, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il faut quand même préserver aussi ce qu'il y a là-bas. Et il y a peu de sols qui supportent une grosse intensité en fait.
Stéphane Burgos, c'est un problème au niveau mondial.
Oui, c'est un problème au niveau mondial. Si on regarde les surfaces, la FAO publie des rapports hein, qui disent voilà, au niveau mondial, il y a tant de millions d'hectares qui sont menacés. Et la conscience est en train de se faire. Hein. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Mais les échelles de temps sont difficiles à percevoir. Les politiques, ils sont là pour quelques années. Et là, les processus du sol, de formation des sols, on parle de millénaires. Donc il y a un gros décalage temporel.
Est-ce qu'il y a des zones en Europe qui aujourd'hui ont vu vraiment leur rendement baisser à cause de ces questions-là, des grandes zones de production ?
Alors au niveau des sols, c'est difficile de mesurer l'impact sur les rendements. Les sols compactés, ça fait peut-être diminuer de 10-20% les rendements. Alors, à l'échelle d'une exploitation, c'est pas énorme, mais à l'échelle de la production globale, c'est gigantesque. Pour récupérer ces sols compacts, c'est des processus qui sont lents. Donc, ça se chiffre en décennies. Et le monde actuel va trop vite pour ça. Le producteur, il doit labourer, il doit avoir une force de travail qui est pas en accord avec la lenteur des processus de régénération. Mais ça, c'est notre société qui va à cette vitesse, hein. Et au niveau mondial, c'est un peu la même chose. Il faut vite aller produire, il faut produire à quelque part, puis ensuite ça ne fait rien. On pense qu'on peut aller ailleurs. Mais il arrivera un moment donné où il n'y a plus le ailleurs.
Vacarme.
Donc il faut préserver le ici, parce qu'on ne peut pas compter sur le fait qu'ailleurs, il y aura encore quelque chose. Les terres émergées, elles ne sont pas extensibles. Hein.
(0) 58 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Catherine Erard. La qualité des sols, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est une priorité pour vous? Et pensez-vous que les politiques sont suffisamment sensibilisées? Dites-le nous en appelant le 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Catherine Erard, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Et demain, nous verrons que les sols sont nos alliés quand il s'agit de limiter la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère.
Est-ce que payer l'agriculteur qui parvient à séquestrer du CO2 dans le sol, ça pourrait être une solution ?
Alors, le CO2 séquestré dans le sol, c'est un service rendu par l'agriculture à la société. Donc, on peut imaginer, tout comme on taxe l'émission, subventionner la séquestration. Ce serait très raisonnable.
Capturer le CO2, c'est un reportage à suivre demain dans Vacarme, 13h, 13h30 sur la première.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un important bouchon s'étend toujours entre Rolles et Morges-Ouest en direction de Lausanne. Prévoyez un temps de parcours rallongé d'une demi-heure environ sur ce tronçon. Et le trafic est aussi fortement ralenti sur la route qui relie Alamont à Saint-Pré.
Histoire vivante, c'est pour tout de suite à l'écoute de nos programmes. Passez un très bel après-midi.
Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante.
Cette semaine, justice et écran.
Tous nos témoins sont soumis à une forte tension.
De Nuremberg à plus tard.
Ce tribunal fonctionne selon des règles.
Le droit et l'image.
La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient.
Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale.
Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit.
Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction.
Pas les États-Unis.
Les garanties sont une chose et les réalités une autre.
Les dés sont truqués. Les règles sont...